C'est une paracha un peu compliquée. Je vois si je peux. C'est une paracha qui est caractérisée par le fait que vous connaissez certainement que c'est la seule paracha qui parle d'une époque postérieure à la naissance de Moshe, dans laquelle le nom de Moshe ne figure pas. Si le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas dans la paracha, il y a plusieurs explications qui sont données. Il y en a une traditionnelle qui est que quand les Bnei Israël ont fait le veau d'or, Hachem a dit à Moshe, laisse-moi, je vais les détruire. Et Moshe, et je vais commencer un nouveau peuple avec toi. Et Moshe n'était pas d'accord et il a dit à Hachem, si tu ne pardonnes pas aux Bnei Israël, tu peux m'effacer de ton livre. Il y a une règle générale que quand les tzadikim disent quelque chose, même s'ils le disent avec une condition, même si la condition n'est pas satisfaite, la chose arrive quand même. C'est ce qui est arrivé à Yaakov, qui avait dit que si Laban avait trouvé les pénates que Rachel avait cachées, alors, bon, la phrase de Yaakov, c'est celui chez lequel tu trouverais ce que tu cherches sera mérite de mourir. Et évidemment, il ne l'a pas trouvé, il n'a pas trouvé, mais néanmoins, Rachel en est morte de cette phrase. Et ici, la phrase de Moshe, elle s'est appliquée à lui-même, bien qu'il ait dit que c'est si tu ne pardonnes pas, et Hachem a pardonné, et bien qu'il ait pardonné, néanmoins, Moshe Rabbeinu a été puni en quelque sorte. Sa phrase s'est un peu réalisée dans la mesure où son nom n'a pas été effacé de tout le livre, mais là, son nom a été effacé de la paracha de Tetzaveh. D'autres disent que c'est une autre explication, et que traditionnellement, la paracha de Tetzaveh, elle est toujours lue dans une semaine qui contient le 7 Adar. Et le 7 Adar, c'est l'anniversaire de c'est le Yahrzeit de Moshe Rabbeinu. C'est vrai que c'est aussi en même temps l'anniversaire de sa naissance, puisqu'il est né et mort le même jour du calendrier, mais c'est en signe de ce que les choses qui se passent dans le monde se passent d'abord d'une certaine manière dans la Torah. Et donc la disparition de Moshe, elle se fait d'abord dans la Torah. C'est dans la Torah que la disparition de Moshe a lieu en premier. Donc elle a lieu ici dans cette paracha. Alors, c'est vrai tout le temps, sauf dans. Si on a une année avec un 13e mois, alors le Yahrzeit de Moshe Rabbeinu est sur le deuxième, sur le vrai mois de Hadar, et la naissance, elle est donc, c'est-à-dire le vrai mois de Hadar, c'est le deuxième. Et alors que la naissance a lieu dans le premier mois de Adar, on est avant Matan Torah, etc., dans le premier mois de Adar, et donc ça correspond pas exactement, mais toutes les autres années, ça correspond. Bon, c'est pas fondamental, si vous voulez, mais bon, c'est une chose importante que le nom ne soit pas marqué. Mais en même temps que le nom n'est pas marqué, en fait, la paracha, elle commence d'une façon très étrange. Elle commence par une phrase, Ve'ata Tetzaveh. On traduit en français, quant à toi, ordonne. Alors, le quant à toi, il est incompréhensible. Dans la paracha précédente, Trouma, Moshe fait tous les rôles. C'est Hachem lui dit, c'est tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et en vérité, bon, alors Hachem lui dit ensuite, comme tu es roi, c'est pas toi qui dois le faire, mais tu vas donner des ordres pour que les choses soient faites. Et dans cette paracha-là de Tetzaveh, si vous regardez, évidemment, la densité du nom Moshe, elle est nulle, mais il y a une très grande densité du nom d'Aaron. Et c'est comme si, à l'avance, on dit toujours, en ce qui te concerne, donc c'est redondant, c'est inhabituel, cette expression Ve'ata, d'autant plus qu'elle va avoir lieu trois fois. Dans la suite, trois fois sera marqué vers à toi et quant à toi. Vers à ta, quant à toi. Alors, comme c'était Moshe qui faisait tout dans le Mishkan, pourquoi est-ce qu'on a besoin, juste à l'après, la paracha qui vient juste après le Mishkan, on est toujours dans l'idée que c'est, on parle de Moshe. Donc, il n'y a pas tellement de raison d'imaginer qu'on ait besoin de dire quant à toi, de simplement dire, savez, ordonne. Alors, il y a par exemple, toutes ces questions-là, elles sont posées par le Hamed Davar. Le Hamed Davar, il les pose donc, et puis, il essaye de. Bon, il répond évidemment d'après lui, mais c'est toute une construction sur laquelle je ne veux pas entrer maintenant. Lui, là, il fait toute une construction pour expliquer qu'est-ce qu'il y a de spécial ici concernant Moshe, pour la raison pour laquelle c'est marqué Ve'ata. Donc, si vous voulez, vous pouvez regarder dans la Mec d'Avar, si on a le temps, on en parlera après. Mais je ne voulais pas parler plus longuement de ça. Alors, dans la suite du verset, c'est marqué Ve'ata, et quant à toi donc, Tetzaveh et Bnei Israël, ordonne aux Bnei Israël, Ve'ikru Elecha, Shemen Zait Zach, Katit Lamaor, La lot ner tamid. Alors, ce qui est dit ici, ordonne au Bnei Israël d'amener, donc on est dans la phase construction du Mishkan, c'était le grand sujet de la paracha précédente, et dans cette paracha-là, on va parler de la construction, c'est-à-dire la fabrication des vêtements de la Kehouna, vêtements du Kohen Gadol et des Kohanim ordinaires. Et maintenant, dans ce qu'on avait, ce dont on a parlé la semaine dernière, on a parlé de la menorah. La menorah, c'est ce candélabre, c'est un chandelier à sept branches qui se trouvait, vous voyez dans le schéma du Beth Amikdash, vous avez une petite partie qui est le Kodesh Kodashim, partie dans laquelle il n'y a que le Aaron. Il n'y a que la boîte dans laquelle on a mis les louchot. Il y a aussi un Sefer Torah, le Shivrei Luchot, et avec ce fameux couvercle là dont on a parlé avec les Krouvim, avec les anges. C'est tout ce qu'il y a. Et puis ensuite, il y a un rideau de séparation entre cette partie et le reste du Mishkan. Et juste derrière le rideau, de part et d'autre, on a d'un côté la menorah, et de l'autre côté, le Shulchan. D'un côté, la menorah, qui va donc être qui est une menorah à sept branches, dans laquelle on allume tous les soirs C'est le travail du Kohen Gadol. Tous les soirs, le Kohen Gadol allume les sept branches de la menorah avec de l'huile d'olive. Et c'est de cette huile d'olive-là qu'on parle, la maor, la halot ner tamid. Le mot tamid ici, tamid, ça veut dire de façon permanente. On apprend que tamid, ça peut aussi vouloir dire, comme c'est le cas ici, chaque jour. Puisque la lumière de la menorah, elle ne brûlait pas tout le temps. On l'allumait tous les soirs, elle brûlait jusqu'au lendemain matin. Mais dans la journée, il n'y avait pas de menorah qui brûlait. Donc le mot tamid, c'est une nouveauté, si vous voulez. Hazal, Rashi le dit, tamid, kol laïla velaïla, karoué, tamid. Le mot tamid veut simplement dire que il y a quelque chose d'archi régulier. Ah, voilà. Un instant. Non, normalement, ça devrait s'ouvrir. J'ai ouvert en face. Ah, sauf que cette porte-là, vous l'avez laissée ouverte? Elle est, oui. Ouais. Bon, normalement, elle doit entrer. Donc, tamine, ça veut dire tous les jours. Ça ne veut pas dire que ça brûle en permanence. Nous, on a pris l'habitude dans les synagogues d'avoir une lampe. Aujourd'hui, on a de l'électricité, donc qui brûle en permanence. En général, un peu devant le Haron, pas loin, il y a une lampe en permanence qui est justement ce ner tamid. Et dans le Beth Amikdash, tamid voulait dire tous les jours et pas en permanence. Alors, il fallait amener cette huile d'olive. Alors, comme vous savez, dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'huile d'olive qui pousse. Il n'y a pas beaucoup d'oliviers. Et donc, d'où est-ce qu'ils avaient l'huile d'olive? Alors, le Ramban explique que l'huile d'olive, certains disent qu'il l'avait depuis l'Égypte. Au début, en tout cas, il l'avait depuis l'Égypte. Et alors, pourquoi est-ce qu'il fallait l'amener à Moshe Rabbeinu? Pour voir si il y a une exigence qui est que cette huile d'olive, elle doit être tatit la maor, la halot ner tamid. Ça veut dire c'est une huile qui doit être extrêmement, enfin, extrêmement pure. Et donc il faut vérifier qu'il y ait absolument aucune scorie, aucun. Et donc, du Ramban, bon voilà, il fallait amener ça chez Moshe Rabbeinu pour que Moshe Rabbeinu vérifie que l'huile d'olive était cachère pour l'allumage. Bon, l'Amek Davar, il dit, il s'étonne, il dit, comment penser une chose pareille, quoi, n'importe qui, les responsables du fonctionnement du Beth Amikdash ou de Mishkan était certainement habilité et était cru s'il disait que c'est pur. Pourquoi est-ce que c'est Moshe Rabbeinu, le Gadolador, qui doit s'occuper de vérifier la qualité de l'huile? Ça a l'air un peu étrange. Mais c'est ce que Ramban dit. Il le dit comme ça, mais il ne dit pas pourquoi. Et en plus, il y a une grande question, c'est que, vous voyez, cet allumage, il va avoir lieu en permanence. C'est fait pour toutes les générations. Donc c'est aussi vrai après la mort de Moshe. Et quand Moshe sera plus là, alors qui est-ce qui va surveiller? Auprès de qui on va amener cette huile d'olive? Ça non plus, on n'a pas de réponse à cela. Donc en fait, là aussi, il va falloir expliquer en quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'huile d'olive qu'il faut amener à Moshe Rabbeinu. Alors, l'huile d'olive, on en a besoin pour la menorah, mais on l'utilise aussi pour ce qu'on appelle les menachot. Les menachot, c'est le pluriel de mincha, ce sont des offrandes végétales. C'est-à-dire, c'est de la farine de blé et qui est, c'est l'espèce de crêpe qu'on fait avec de l'huile, avec plus ou moins d'huile, qui est aussi finalement de l'huile d'olive, mais l'exigence quant à la pureté de l'huile d'olive utilisée pour les menachot, elle n'est pas aussi grande que l'exigence concernant l'huile qu'on utilise pour l'allumage des Nérotes de la menorah. Donc c'est pour, ici on nous parle de l'huile de la Maor, c'est-à-dire de cette huile qui va être utilisée pour la menorah. Pardon?
Comment on l'explique, la menorah, parce que je croyais au départ que ça brûlait toutes les 24 heures. On aurait pu mettre le lit pour qu'elle brûle plus tôt. Pourquoi le jour, c'est pas utile?
Oh, c'est pas que c'est pas utile, la menorah elle est pas fonctionnelle. Comme dit Chazal, quand le jour il n'a pas besoin qu'on l'éclaire. Donc normalement on y voit clair. Dans le Mishkan, puis dans le Beth Amikdash, même sans cette menorah. Comment, posez pas la question, je sais pas, est-ce qu'il y a un miracle ou est-ce qu'il y a d'autres lampes, on a allumé d'autres endroits plutôt pour qu'on y voit clair, mais c'est pas la menorah qui joue ce rôle-là. Pour l'instant, on n'explique pas pourquoi effectivement Ner Tamid ici. C'était une Kabbalah que c'est comme ça qu'il fallait allumer. On en mettait une quantité qui permettait de durer jusqu'au matin, quoi. Mais il n'y avait pas du tout de visée pour que ça dure plus longtemps. Effectivement. On va dire simplement, dans le verset, ce sera marqué, c'est marqué, ça doit être Me'erev ad Boker, du soir jusqu'au matin, l'ifne Hashem, devant Hashem. Donc on peut dire, le verset dit Tamid, puis après il corrige, il nous dit que voilà, ça suffit que ça soit Me'erev ad Boker. Donc, Merevat-Boker, ça nous dit combien d'huile il faut mettre dans chacun des godets, dans chacune des branches de la menorah. Comme vous savez, cette mitzvah d'allumage de la menorah, c'est une mitzvah dont on dit que cette mitzvah, elle continue au-delà de l'existence du Beth Amikdash. Bien entendu, quand il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de menorah, mais cette mitzvah, elle est prolongée par l'allumage des Nérodes de Hanouka. On avait parlé de ça au moment de Hanouka. On va regarder un midrash qui dit quelque chose d'assez étrange. Il dit la chose suivante. Le midrash dit, il s'agit d'un homme qui, après 10 ans de mariage, Il dit à la femme avec laquelle il n'a pas eu d'enfant pendant ces 10 ans, il lui dit, cherche-moi une femme. Comme elle fait un peu la grimace, pourquoi on lui demande de chercher une concurrente en quelque sorte. Alors le mari lui dit, j'aurais très bien pu me chercher une femme sans rien te demander, mais je voulais ta collaboration. Et le Midrash dit que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, enfin, je suppose que vous savez que au moment de l'inauguration du Mishkan, je dois le dire explicitement, au moment de l'inauguration du Mishkan, il y a eu 7 jours d'inauguration. On a vu dans un shiur il n'y a pas si longtemps que pendant ces 7 jours d'inauguration, qui s'appelle, c'est dit, mais un Milouim, pendant 7 jours d'inauguration, le Kohen Gadol, à cette époque-là, c'était Moshe Rabbeinu. Et au bout des années, de cette période d'inauguration, Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, ça c'est écrit dans notre parasha, on verra si vous voulez, va dire à Moshe Rabbeinu, maintenant, tu vas introniser Aaron et ses fils, Aaron et ses 4 fils. Tu vas installer Aaron comme Kohen Gadol et ses 4 fils comme Kohanim. Et donc, notre Midrash dit, comme si Hachem le disait à Moshe, j'aurais pu faire d'Aaron un Kohen Gadol sans rien te demander. Mais je veux, alors là c'est un petit peu différent, je veux que tu sois bien, qu'il soit bien clair que tu es au-dessus de lui. C'est toi qui le nommes. Alors, de ce midrash, on entend, par la comparaison, qu'il y a quelque chose chez Moshe Rabbeinu qui est de l'ordre de la stérilité. Et la question qu'on se pose, bien entendu, c'est quoi la stérilité en question? Alors, cette histoire d'abord de la Kehuna Gdola, vous vous souvenez que au moment où Akadosh Baruch Hu a envoyé, enfin a ordonné à Moshe d'aller libérer les Bnei Israël, les faire sortir de Mitzrayim, Moshe Rabbeinu a résisté. Il a résisté une semaine. Il a refusé. Et à la fin, Hachem s'est fâché. Moshe Rabbeinu, dans son refus, il a dit envoie qui tu veux, etc. Et on explique une des raisons du refus de Moshe Rabbeinu, c'est que il ne voulait pas marcher sur les plates-bandes de son grand frère Aaron. Aaron était toutes les années sur le terrain. C'est lui qui a encouragé, etc., les Bnei Israël dans toutes ces années de torture, d'esclavage. Moshe Rabbeinu veut pas arriver là tout à coup et puis il lui passe devant, quoi. C'est son grand frère et tout. Il ne voulait pas. Mais bien entendu, à partir du moment où Hachem lui a dit qu'il devait le faire, il n'y avait pas lieu de se demander comment Aaron. Il aurait pu dire qu'est-ce qui va se passer pour Aaron, mais pas dire j'y vais pas. Il aurait dit moi je vais y aller, mais comment je fais pour pas mettre Aaron dans l'embarras, etc. Mais Hachem s'est fâché. Et il lui a dit, puisque toi tu veux pas parler, alors ce sera Aaron qui sera, il va être ton prophète, c'est-à-dire Vous allez aller parler avec Paro, avec l'Ebné Israël. Moi, je te parlerai à toi, et toi, tu parleras à Aaron, et Aaron parlera à Paro et au Bnei Israël. D'une part. Et d'autre part, tu aurais dû être à la fois roi, ce qu'il a été, effectivement, Moshe, mais tu aurais dû être aussi Kohen Gadol. Mais puisque tu n'as pas voulu faire ce que je t'ai dit de faire, alors ça aussi, on va le donner à ton frère Aaron. Le Passouk dit, on parle d'Aaron, Aaron, ton frère, à Lévi, qui normalement n'aurait dû être que Lévi, puisqu'il est né dans la famille Lévi, il aurait dû être Lévi, c'est lui qui va devenir Kohen Gadol. Donc il y a une dimension de punition de Moshe Rabbeinu. Mais notre Midrash, il dit un petit peu autrement, quoi. Le Midrash que je vous ai cité ici, c'est un Midrash dans Shemot Rabba, il dit un petit peu différemment. Il dit que il y a à voir avec la stérilité. La Kehuna et la Malchoute, elles passent aux enfants. Les enfants d'un père qui est Cohen sont Cohen. A priori, un fils du roi devient roi s'il en est capable. Alors, mais Moshe était aussi roi, mais de Moshe, il est dit un peu autre chose. De Moshe Rabbeinu, il est dit qu'il était Ish HaElokim, l'homme de Dieu, en fait. Et ça passe pas aux enfants. Donc, il n'a pas pu transmettre ce qu'il était aux enfants, mais c'est un peu, c'est-à-dire que lui, il avait un degré d'intimité, de proximité avec Hachem, il n'a pas pu transmettre à ses enfants. Aaron, cette proximité qu'il avait avec Hachem à travers la proximité qu'il avait avec les Bnei Israël dont il s'occupait, etc., ça, il a pu le transmettre à ses enfants. Donc c'est ça, semble-t-il, cette stérilité. Alors, est-ce que la stérilité en question, elle est due au rôle que Moshe Rabbeinu devait jouer? On voit bien que, par exemple, Moshe Rabbeinu, à partir du moment où il était en service, il a dû se séparer de Tzipora, parce qu'il devait être disponible en permanence. Et donc, il n'avait pas de possibilité de vivre une vie maritale normale avec sa femme. Donc, il ne pouvait pas imposer à sa femme de rester sa femme sans qu'il puisse lui donner ce qu'un homme doit donner normalement à sa femme. Et donc, en fait, Moshe, quand il a compris quand il est allé il est allé en Égypte, quand il est arrivé, vous vous souvenez que Aaron lui a dit, mais pourquoi tu as amené ta femme ici? Nous, tous les jours, on se désespère d'imposer à nos femmes ces conditions-là, et toi, tu amènes une femme et tu lui imposes. Et Moshe Rabbeinu a libéré Tzipora, il a dit, retourne chez ton père. Et en fait, si Tzipora l'avait voulu, avec quand Moshe lui a dit retourne chez ton père, si elle avait voulu, elle aurait pu se considérer comme une femme divorcée. Elle n'a pas voulu. Elle a continué de considérer qu'elle restait l'épouse de Moshe. Mais bien, elle était l'épouse de Moshe, mais elle n'avait pas ce que une femme est en droit d'avoir. Mais bon, c'est son choix. Et donc, on voit qu'il y a une espèce de stérilité qui est due à la condition même de Moshe.
Mais quand on parle
Quand on parle
à Elohim,
d'Isha,
ça veut dire que ce sont des hommes de prophètes, ce sont des prophètes, ce sont des qui
plus
transmettent
que ça,
la parole de Dieu.
Oui, c'est oui, mais il était il, avec c'était en traduction, ça veut dire c'est l'homme de Dieu, mais donc il était vraiment celui qui était entièrement consacré à Elohim, quoi.
Mais il
Il
n'y a
était
pas de prophètes qui ont transmis à leurs descendants.
les autres prophètes n'avaient pas ça. Ils sont on dit, je crois, d'Elisha aussi. Il y a aussi la Shulamite, elle dit de lui qu'il est Isha Elohim, mais a priori, il avait. Non, je n'en sais rien, mais je n'ai pas entendu que il ne pouvait pas avoir de femme. Si, je ne sais pas s'il en avait ou il n'en avait pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on parle en général très peu de des femmes des prophètes, mais ils pouvaient avoir des femmes.
Mais c'est normal que
Pardon?
leurs descendants ne soient pas prophètes. C'est un rôle indépendant.
Oui, non, la prophétie, c'était pas ça. C'est-à-dire que, effectivement, Moshe était aussi roi. Il n'a pas transmis même cette dimension de royauté à ses enfants. Il aurait bien voulu. Mais Hachem, il aurait voulu. Non, Chazal explique que quand il s'est agi de nommer un successeur, Hachem a dit à Moshe que ce n'est pas lui qui allait faire entrer les Bnei Israël en Égypte, en Eretz Israël. Chazal dit que Moshe Rabbeinu aurait voulu que ce soit ses fils qui soient ses successeurs. Et Hachem a dit non. Il a dit c'est Yoshua. Effectivement, les fils de Moshe n'ont été, ils étaient rien, rien de spécial.
Donc, il a pas de temps. Comme on dit par rapport à sa femme, il était tellement, je veux dire, réservé à Dieu.
C'est pas lui qui l'a décidé, puisque lui-même, quand il arrivait en Égypte, d'ailleurs, il avait pris sa femme avec lui. Et la situation qu'on lui a faite, ce qu'Hachem lui a faite, ben c'est Hachem qui l'a mis dans cette situation-là. Et donc, c'est pas du tout, c'est pas une faute, si vous voulez, mais il y a de la stérilité quand même. Il y a un état de fait qui est stérilité. Et cette stérilité, on voit bien, c'est ça que la question qui se pose, c'est le Midrash. D'où est-ce que le Midrash a pris cette idée que c'est une stérilité? Mais c'est bien clairement ce que dit le Midrash, puisqu'il compare avec cette femme qui était stérile.
Mais la transmission, elle a commencé à avoir lieu avec ses enfants.
Oui, mais pas avec ses enfants.
Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que...
Oui, on peut considérer que dans la transmission de la Torah, c'est ce qu'on dit dans. Ça va même plus fort, puisque dans le premier paragraphe du Shema, quand on dit Levanecha, Rashi dit, quand on dit tu l'enseigneras à tes enfants, Rashi dit tes élèves. Il prend le mot Banecha et il explique en termes d'élèves.
Mais je ne sais pas si c'est que le texte le rapporte pas à mon niveau, qui ne rapporte pas, je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que Moshé n'est pas beaucoup occupé de ses enfants. Je crois même que la circoncision n'est pas au matin de l'heure en faveur de ses enfants.
Alors, le problème de ses enfants, on ne sait pas du tout si ses enfants étaient là. Ça dépend tout quand ils sont arrivés. Ils sont arrivés en même temps qu'Yitro. Et sur Yitro, il y a toute une discussion pour savoir quand est-ce qu'il est arrivé.
Mais que ce soit là ou pas, ça veut dire
Donc,
que...
comme il est arrivé avec les enfants, ils sont arrivés avec le grand-père Yitro, avec leur mère et les grands-pères. On ne sait pas quand ils sont arrivés. Mais même si on dit qu'ils étaient là, ils n'étaient pas là à tout, ça c'est sûr. Mais même si tu dis que à Matan Torah, ils étaient là, bon, ils étaient là. Mais si vous voulez, là-dessus, Aaron n'a pas fait plus. Aaron, vous ne voyez pas que Aaron a fait quoi que ce soit de plus que Moshe pour ses enfants. Et pourtant, chez Aaron, ça a marché. Non, on n'en entend pas parler. On entend parler d'eux seulement quand on les choisit ici comme Kohanim, c'est tout. Mais non, on ne sait pas. On ne sait pas. Avant ça, on ne sait pas. Avant qu'ils soient, on le sait quand ils meurent. Ils étaient tellement grands. Mais avant, on ne sait pas. Et l'occurrence des enfants d'Aaron, systématiquement, ici, c'est au moment où ils deviennent Kohanim. Ben, à ce moment-là, Mosché, il aurait bien voulu qu'à ce moment-là, on désigne ses propres enfants pour devenir ses successeurs.
Parce que certainement, de stérilité, ça fait un peu sécheresse, ça fait quelque chose qui ne va pas donner un truc.
Oui, c'est ça la stérilité. Mais c'est ça la question, Claudine. La question, c'est le Midrash, il arrive avec quelque chose, une chose à laquelle on ne s'attend pas tellement. Si on n'avait pas ce Midrash-là, on ne viendrait pas à poser ce genre de questions. Y a une non-continuation, oui, c'est ça. Mais ça continue, des enfants, il en a eu, parce qu'il a eu des enfants avant. Il a donc eu il a eu ses deux fils qu'il a eus avant qu'il devienne le chef du clan Israël. Pardon?
Non, par en termes d'une facture de noyau familial.
Mais non, ici, non, c'est la stérilité ici pour dans l'exemple l'homme et la femme, c'est normal, ils parlent que de ça, on sait pas ce qu'ils. On ne connaît pas les fonctions de cet homme qui a dit à sa femme, trouve-moi une deuxième femme. On ne sait pas. C'est quelqu'un qui, simplement, c'est Monsieur Tout-le-Monde qui a épousé une femme. Et on ne sait même pas d'ailleurs si c'est elle qui est stérile ou lui. On n'en sait rien. Ils n'ont pas eu d'enfants. Systématiquement, comme pendant très longtemps, on a toujours regardé, ça doit être le problème de la femme. On ne savait pas, visiblement, que ça pouvait être obligatoirement le problème de l'homme, jusqu'à quand je ne savais pas, je ne sais pas. Mais là, donc, le Midrash, il a pris un exemple, là, qui fait parler de stérilité, et on peut se demander d'où le Midrash, a pris cette idée-là, que... Alors, en fait, il y a ce Midrash que je vous ai dit, il y a un Midrash Tanhuma, qui dit aussi que il est dans Parchat Shmini, au moment de l'inauguration, effectivement, et le Midrash dit là-bas que Hachem dit à Moshe, tu pensais que tu serais Kohen Gadol? Tu pensais que, à la limite, c'est incroyable la torture qu'Hachem inflige à Moshe Rabbeinu. Parce qu'il lui a pas dit, tu seras pas Kohen Gadol. C'est lui qui fait l'inauguration. Pendant l'inauguration, c'est lui qui est Kohen Gadol. Et après l'inauguration, bah, il serait normal de penser, bah, je vais continuer d'être Kohen Gadol. J'étais là à l'inauguration, bon, c'est moi qui continue. Et Hachem lui dit, pas du tout. Appelle Aaron et ses fils, c'est Aaron qui va être Cohen là-bas. Alors, on peut le lire de deux manières. Hachem a voulu lui dire, tu sais, tu vas voir expérimenter la condition de Cohen Gadol, l'élévation qu'il y a dans être Cohen Gadol. Voilà, tu l'as vécu. Et maintenant, c'est bon, tu l'as vécu, tu pourras. C'est comme si tu as goûté à la Kehuna, ça suffit. Mais on peut aussi le dire, d'avoir goûté la kehuna, puis qu'ensuite on te l'enlève, ça apparaît plutôt comme une sanction. Et d'après ce que je vous ai dit, c'est une sanction. Alors, Rashi, déjà au tout début, il avait fait le lien entre la colère divine et le choix d'Aaron comme Kohen Gadol, comme je vous ai dit, au moment du buisson ardent. En fait, mon cher Rabbeinu, il a donc commencé sa carrière de Navi en refusant d'être Navi. Donc, si on regarde le texte, dit effectivement, là aussi c'est introduit Veata. dans le premier verset du nouveau chapitre, du 28, donc, Ve'ata hakrev elecha et Aaron achicha ve'et banavito mitoch bnei Israël lecha'anoli. Aaron, Nadav, Avihu, Elazar, Itamar, bnei Aaron. Donc, Hachem lui donne Akrev Elecha, c'est-à-dire rapproche-les de toi. Et Rashi dit, Leachar shetigmor melechet ha-mishkan. Quand tu auras terminé melechet ha-mishkan. Mais ce n'est pas tout à fait à ce moment-là. Quand est-ce qu'il va lui passer le pouvoir? C'est à moins qu'on considère que l'inauguration fait encore partie de la construction du Mishkan. Les 7 jours de Milouim, c'est encore la construction du Mishkan. Alors, je vous ai dit que quand Hachem lui dit à Moshe, il lui dit, pourquoi est-ce que je passe par toi? De même que le mari, il avait dit à sa femme, je veux ta collaboration. Ici, la collaboration de Moshe Rabbeinu, c'est d'installer Moshe Rabbeinu au-dessus d'Aaron. Akrev Elecha, rapproche-le de toi, il ne deviendra pas ton égal. Il va avoir quelque chose que tu n'as pas, mais le niveau de la Kehuna restera inférieur au niveau de la Torah que Moshe Rabbeinu enseigne. C'est lui le grand enseignant de la Torah. Et donc, il va rester toujours inférieur à Moshe Rabbeinu. Bon, il n'y a pas d'égalité en réalité. Le niveau Torah reste supérieur au niveau de la avoda, du service que fait le Kohen Gadol.
Donc, la stabilité entre Moshe Rabbeinu, elle relève d'une proximité beaucoup plus élevée avec Hachem.
Oui, c'est ça. Non, mais justement, c'est en fait la difficulté, elle est que ce n'est pas une stérilité dans la mesure où personne n'est jamais arrivé au niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu. Donc, ce n'est pas seulement ses fils qui n'étaient pas à la même hauteur. Personne, non seulement n'est arrivé, mais on sait aussi, personne n'arrivera jamais au même niveau de prophétie que Moshe. Son niveau de. Le prophète, c'est celui qui parle ce qu'Hachem lui a dit de parler. Alors, ce degré-là où il parle, tous les prophètes, quand Hachem leur parle, ils n'ont pas comme tâche de dire exactement les mots, à supposer qu'Hachem leur parle en mots. Je ne sais pas comment Hachem parle aux prophètes, mais s'il leur parle avec des mots, les prophètes, ils ne répercutent pas les mots obligatoirement. Ils sont informés et c'est à eux, ça va être à eux à choisir la forme qu'ils vont donner à ce qu'ils doivent transmettre. Est-ce qu'ils vont prendre une parabole? Est-ce qu'ils vont le dire directement? Est-ce qu'ils vont le dire sur la place publique? Est-ce qu'ils vont le faire savoir, etc.? Ça, c'est déjà leur travail. Mais chez Moshe, ça ne se passe pas comme ça. Chez Moshe Rabbeinu, c'est la parole d'Hachem qui utilise la bouche de Moshe Rabbeinu, quoi, pour être parlé. Et ce niveau-là, personne ne l'a jamais atteint ni ne l'atteindra jamais.
D'avoir l'explication dans le sens comme ça, je vois dans le sens comme ça, il n'y aura jamais personne. Roger est unique, il y a une unicité de
Oui,
Roger.
alors c'est pour ça que c'est difficile d'appeler ça stérilité. Et donc la comparaison, elle est un peu étrange. Mais malgré tout, on a voulu dire quelque chose de cet état de Moshe Rabbeinu, parce qu'en même temps, il lui dit, t'enlèves ça, tu ne seras pas Kohen Gadol, mais le Kohen Gadol ne sera quand même jamais à ta hauteur.
T'enlèves que tu seras plus, alors t'enlèves, c'est négatif. Enfin,
Mais c'est quand même quelque chose, il reste quand même que d'après Chazal, Moshe Rabbeinu aurait dû être Kohen Gadol et qu'il l'a perdu. Il aurait dû avoir les deux couronnes. Oui, sans doute. Là, c'est assez compréhensible qu'il veuille pas. C'est pas une super grande humilité à ce moment-là de ne pas vouloir marcher sur les plates-bandes de son grand frère. C'est aussi que c'est un peu. Si ce n'était pas dit par Hachem, franchement dit, si nous on avait vu le petit frère ici arriver tranquille, et puis maintenant je prends le pouvoir, on aurait dit que c'était de la chutzpah. Pardon? Alors maintenant, alors pourquoi ça ne l'est pas? C'est parce que, et c'est ça que Moshe n'a pas compris. Il a visiblement, s'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, il n'a pas compris qu'à partir du moment où Hachem le lui dit, ça veut dire que c'est complètement planifié. Ça veut dire, il va lui dire après, quand Moshe va quand même finir par donner à comprendre que il veut pas marcher sur les plates-bandes. Alors Hachem lui dit, mais moi je te dis que Aaron, quand il va te voir arriver, il va se réjouir et dans son cœur. C'est pas qu'il va être, il va faire contre mauvaise fortune, bon cœur, comme on dit, il peut pas faire autrement. Non, moi, Hachem, qui sait ce qui se passe dans le cœur, je te dis qu'il va se réjouir dans son cœur. Mais ça, à la limite, c'est presque impensable.
Et ça parle justement l'idée d'une stérilité dans cette démarche de très très grande humilité.
C'est pas l'humilité, ça.
Et...
Ça, c'est pas l'humilité. Il y a pas. C'est normal de respecter son grand frère, non?
C'est là où il y a trois enfants qui racontent l'ordre d'un
Non, mais il n'a pas con. Oui, le problème, c'est pas une question d'humilité. Ça lui est presque impossible. C'est pas normal. C'est quelque chose. Ou bien j'ai. Non, je ne peux pas faire ça. Tu peux envoyer quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est moi qui dois faire le sale coup à mon frère? En quoi est-ce que. C'est vrai que si tu veux, tu peux dire que son humilité, c'est de penser pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai moi de particulier? Mais en fait, jusqu'à présent, mon cher Abu n'a rien fait de spécial.
sa position spécifique
Oui, non, mais il n'a pas.
d'accord
Il a encore rien fait pour le clan d'Israël.
mais
Mais oui, mais c'est difficile de penser pourquoi s'il avait déjà fait quelque chose pour le clan d'Israël, on pourrait penser qu'il a fait une grande chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien qui avait abusé de la femme d'un juif.
c'est la première fois en fait, depuis le début qu'on voit deux frères, une fratrie positive.
D'habitude, la première fratrie, elle a donné Caïn et Abel. Et on dit, Inématov Umanaïm, Chevet Achim Gam Yachad. C'est beau et c'est agréable, etc. Quand deux frères peuvent cohabiter, et on dit, les deux frères qui peuvent cohabiter, qui c'est? C'est Moshe Aaron. Et ce n'est pas les autres. C'est un truc presque impensable. Que lui, il ne veuille pas, même si Hachem lui propose la royauté, quoi, ben je ne la prends pas, parce que à cause de mon frère, et son frère, quand il entend qu'il vient lui prendre, son frère se réjouit dans son cœur. Ce n'est pas très courant.
Complètement pour
Mais chacun, c'est réciproque, oui. Mais il s'efface complètement contre son frère. Et il n'a pas compris, enfin, c'est difficile, mais c'est possible. Moshe était en début de carrière. Il n'a pas compris que si Hachem te dit, parce qu'on aurait pu imaginer que c'est un test, qu'Hachem est en train de le tester pour savoir, voilà, je te le propose. Et c'est bien que tu dises non, parce que ça veut dire que tu respectes ton frère. Mais Hachem ne l'a pas compris comme ça non plus. Hachem, il a dit, OK. Peut-être que s'il l'avait dit une première fois non, puis après il avait cédé, ça aurait marché, mais il a résisté pendant toute une semaine. Oui, parce que mais lui, il n'est pas encore le gadolador. Il n'est rien du tout pour l'instant. C'est un berger de chez Yitro. D'abord, il a été roi de Kouch, bon, mais disons par rapport au clan d'Israël, il n'a encore rien fait. Pardon? Oui. Hachem s'adresse à lui, mais il n'a encore rien fait. Hachem est vu qu'il a. Le Rambam, il dit un petit peu différemment, parce que le Rambam, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il a fait Moshe. Quelque part, il y a eu quelque chose de spécial, bien que il soit le fils de son papa et sa maman, que il est normal, il mange, il boit comme tout le monde. Mais néanmoins, Hachem a prévu que il lui a donné les forces pour pouvoir, parce que diriger le clan d'Israël, ce n'était pas quelque chose de facile. Et d'intercéder, mais tout ça, c'est. Il y a une construction de Moshe. Moshe, il s'est pas fait en une nuit, quoi.
Est-ce que la fratrie de Aaron et de Moshe, ça répare la faute de Caïn et Abel?
J'ai jamais entendu ça, c'est possible, mais ça, j'ai jamais entendu. Je ne sais pas si cette faute-là a été réparée. Si vous voulez, ça dépend la femme de Noah, elle s'appelle Naama. Certains disent que c'est une descendante de Caïn. Si elle est une descendante de Caïn, alors ça veut dire qu'il y a du caïnisme qui a passé le déluge. C'est-à-dire que nous avons en nous quelque chose de Caïn. Mais si ça n'est pas la descendante de Caïn, mais que c'est une fille de Shed, du troisième fils de Noah, d'Adam. Alors ça veut dire que il n'y a eu de descendance ni de Caïn ni de Hevel. Donc il y a rien à réparer, il y a rien de. Alors maintenant peut-être si c'est elle la femme de Noah, alors peut-être que quelque chose s'est réparé, mais je connais pas le texte qui parle de ça. Ouvrir du tout, hein, mais moi je n'en connais pas. Et alors, on va commencer maintenant avec ça. Il faut les installer. Et dans l'installation, c'est Vasita Vigde Kodesh, l'Aaron Achicha, le Chavod ou le Tifaret. Tu vas faire des vêtements saints, des vêtements qui vont servir pour le travail saint d'Aaron et de ses fils, et ces vêtements seront le chavod ou le tifaret. Ce sera pour la gloire et pour la splendeur. Alors, le Ahmed Davar, il dit, étant donné qu'il faut que Aaron se sanctifie et qu'il se conduise de façon extrêmement pieuse et différente de tout le monde en tant que Kohen Gadol. Et il dit, Vezei efshar ela beofan sheye nechbad beine abriyot. Pour ça, il était absolument nécessaire qu'il soit revu comme très honorable aux yeux de toutes les créatures, que tout le monde sache et comprenne qu'il a un niveau plus élevé. Et que les gens ne pensent pas que ce soit simplement de l'orgueil de sa part. Et c'est pour ça que la fonction de gloire et de splendeur, elle a été attribuée aux vêtements. Ces vêtements-là qu'il va porter, c'est pour que le peuple comprenne à qui ils ont affaire. Ils comprennent que la façon qu'il a de se conduire, ça n'est pas une façon hautaine et un peu méprisante par rapport à eux de se conduire, mais que c'est la volonté d'Hachem. Parce qu'il doit être le support de la présence divine dans ce Mishkan. Pardon-le.
Doivent être dans un rôle déterminé par Hachem. C'est plus eux.
Oui, eux, à la limite, bon, ils devraient rester modestes, quoi, mais savoir que je dois jouer ce rôle-là. Oh, mais c'est-à-dire, mais ils sont obligés de se comporter à la hauteur des vêtements, quoi, si on veut parler comme ça. Alors, pour lui, pour les vêtements du Kohen Gadol, effectivement, ils vont être fabriqués avec splendeur. Mais les vêtements des Kohanim, c'est du lin. Alors, qu'est-ce que c'est? Quel est le. Les Kohanim aussi, ils ont quand même peut-être pas un niveau aussi élevé que le Kohen Gadol, mais aussi. Alors, eux, ils avaient un bonnet. Donc en fait, d'une certaine manière, c'est leur bonnet quoi, qui vont leur donner un peu quelque chose de plus que monsieur et madame tout le monde. Parce que pour le reste, les vêtements, eux, ils ont quatre vêtements, mais c'est des vêtements absolument élémentaires. Non, c'est. Oui, bon, c'est ça, mais ça pourrait être en laine aussi. En laine aussi, mais. Là, on voulait que ça soit du linge, justement.
Pourquoi le lin, on ne dit pas d'or, il aurait dit de laine, il aurait dit de lin. Peut-être ça doit représenter quelque
Non,
chose.
mais il y avait. Oui, le lin, c'est le végétal.
Oui.
La laine, c'est de l'animal, déjà. Et alors, bien entendu, voilà, il faut que j'ai des vêtements, mais on va voir plus loin que. Ces vêtements, ils vont être tissés, les vêtements, je parle du Kohen Gadol, avec un fil. Ce fil, il est fabriqué avec six fils qui sont eux-mêmes mélangés avec toutes sortes de matières et plus un fil d'or. Et c'est avec ça qu'on va tisser les vêtements du Kohen Gadol. Donc c'est absolument splendide, mais Ce qui va être très important, c'est ce qui vient maintenant ici, c'est que Véata Tedaber, comme ils ont besoin de ces vêtements absolument extraordinaires, c'est d'abord El Kol Chachmelev. Tu vas parler à tous les gens donc, qui ont une sagesse du cœur ou un cœur sage. Asher Miletiv, Ruach Chochma, Vasu et Bigde Aaron le Kadcho le Chanoli. Alors, si on regarde un peu plus près ce verset, toi tu vas parler à tous les Chachmei Lev. Alors, c'est presque contradictoire. La Chochma, c'est dans le moir, c'est dans le cerveau, c'est pas dans le cœur. Alors, c'est quoi cette construction Chachmei Lev? Alors, l'Amec d'Avar, il dit, il fait remarquer, En me koma, la Chochma, En me koma, Balev, qui m'a moach. Et là, Kol makom dirtiv Chachmei Lev, le mot Chachmei Lev, enfin, l'expression Chachmei Lev, elle veut dire Yirat Hashem. C'est-à-dire, chez où Réchit Chochma. La Chochma dont on parle ici, c'est la Yirat Hashem. Et la Yira, sa place, c'est vraiment dans le cœur. Aïnyan Shendidrash Lekan Beyichud Chochmat Yirat Hashem. On va le voir plus bas, pourquoi on a besoin de Yirat Hashem. Bon, ça, c'est ce que dit effectivement l'Amec d'Avar. On pourrait peut-être dire presque, enfin, un petit peu plus loin que ce qu'il dit là, c'est que ils vont fabriquer des choses. C'est des gens qui vont faire des tissus. On pourrait penser que les gens qui vont tisser, et ce qu'on leur demande, c'est d'être capable de tisser. Ce qu'on leur demande, c'est de savoir bien tisser. Éventuellement de savoir fabriquer les fils avec lesquels ils vont tisser. Et c'est tout, s'ils sont de très bons artisans. Mais je crois que ce que la Torah veut, c'est que les artisans eux-mêmes sachent à quoi ça correspond d'utiliser ce genre de fil pour ce genre de tissage, de ce genre de vêtements. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation parfaite entre les matières qui sont utilisées et le vêtement qu'avec ces matières on va fabriquer, étant donné que les vêtements ont des fonctions bien précises. On verra plus tard que les vêtements, chaque vêtement participe à la avoda du Kohen. Un Kohen, c'est quelqu'un qui fait une avoda, l'essentiel de la avoda, c'est donc de servir Hachem, c'est-à-dire de se mettre en position d'abord pour servir Hachem. C'est-à-dire, il faut obtenir la kapara pour les fautes qu'on a faites. Donc, la fonction des Kohanim, c'est d'obtenir à chaque fois la kapara. Et chaque vêtement, il y a des vêtements qui sont merapères sur l'orgueil, des vêtements qui sont merapères sur cette mida, sur cette autre mida. Et donc, évidemment, les vêtements sont adéquats, ils ont quelque chose à voir avec ce sur quoi ils sont mechaper. Et donc la matière dont ils sont faits et la façon dont ils sont faits, que ce soit du tissage ou du, je sais pas, du tricot ou de la couture ou etc. C'est tout ça, c'est important. Et donc, Chachmei Lev, ça veut dire c'est les gens qui ont une chokhma dans ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font, pas seulement techniquement, mais aussi au sens, du point de vue du sens de ce qu'ils sont en train de faire. Je pensais que c'était ça le lien de Rachmelev. Alors lui dit que c'est de la Yirat Shamayim, mais peut-être que c'est la même chose. Pourquoi il faut craindre Hachem dans ce qu'on fait? La crainte, c'est de comprendre que on agit ici devant Hachem et que on doit agir au niveau maximal auquel on est capable d'atteindre, c'est-à-dire au niveau de la compréhension maximale de ce qu'on est en train de faire. Donc, je pense que c'est pas vraiment contradictoire. Alors, il faut parler à Kol Chachmelev. Et puis ensuite, il y a une faute de grammaire. Enfin, c'est évidemment pas une faute, mais Asher Miletiv. Alors, comme dit le Hamec Davar, on aurait dû dire Asher Miletim. Je l'ai. On parle des gens, donc ça devrait être un pluriel et pas un singulier. Miletiv, c'est un singulier. Miletim, c'est un pluriel. Alors, il faut dire que, enfin, ce que dit ici le Hamec Davar, le Miletiv, c'est Aaron. On revient sur Aaron. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu doit dire au Chachmelev que j'ai rempli Aaron de Ruach Chochma, un esprit de sagesse. C'est-à-dire, il faut qu'ils comprennent que le Kohen Gadol, qui va évidemment leur donner aussi des ordres, que Hachem a rempli Aaron de sagesse, une sagesse telle qu'il puisse les diriger. Et tout ça, c'est une introduction à la fin du verset qui dit Ve'asu et bigdei Aaron le kadesho. Et ils vont pouvoir faire les vêtements d'Aaron pour le sanctifier. Que puisque Aaron a reçu l'obligation de se sanctifier, Akadosh Baruch Hu lui a donné des vêtements en Bigdei Kodesh qui vont l'aider à cela. Et on sait que toute chose, il y a de la kdusha. À part le fait que il faut faire la chose lishma, c'est-à-dire d'après le din, d'après la halakha. Od kol ma shemechinim yoter apeula le shem kdusha moelet yoter letachlita. C'est-à-dire que plus on prépare les choses, plus elles deviennent adéquates pour produire de la kdusha. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu a reçu l'ordre de mettre en garde les artisans d'être eux-mêmes Yirei Hashem, c'est-à-dire de faire les vêtements de telle sorte qu'ils soient vraiment utiles pour sanctifier Aaron. Étant donné que ça, c'est quelque chose qui se joue, c'est le lèvre, c'est le cœur pour savoir si effectivement ils vont faire les choses avec les bonnes intentions, etc. C'est pour ça qu'il leur a dit, Asher Mileti, et Aaron, roi Chochma, Yavin, Viaskil, Aaron va comprendre à partir de ces vêtements-là, savoir comment ces vêtements fonctionnent sur son cœur à lui, il va comprendre comment ils ont été faits, si ces vêtements ont été faits de la bonne manière. C'est-à-dire, c'est comme si Moshe disait, essayez pas de tricher, Aaron, quand il va mettre ses vêtements, si vous ne l'avez pas bien fait, il sentira que ses vêtements ne l'aident pas à faire ce qu'il doit faire. C'est pas bien fait.
Dans le monde, tout s'en L'idée de sa qualité juste.
C'est ça.
Après, c'est la même chose que quand j'ai eu dans un préparatoire. Donc, j'ai pris des informations
Le scribe,
du
son frère.
chauffeur. Donc, j'ai pris des informations du chauffeur et j'ai le texte que j'ai utilisé à ce moment-là aussi.
Oui, bien, c'est sûr que le problème, c'est Aaron, lui, l'avait. Hachem dit, pourquoi il va le savoir? Parce que je l'ai rempli de sagesse. Donc il faudrait que le sofer soit rempli de sagesse, pas le sofer, que le lecteur soit rempli de sagesse pour qu'il comprenne ce que reconnaître dans la forme de l'écriture, quelles étaient les intentions du scribe, du sofer. Est-ce qu'il voulait simplement écrire pour sa parnassa, ou bien est-ce qu'il avait vraiment l'intention d'écrire un sefer Torah? C'est pour ça qu'il a dit Chochmat Lev, lui il a traduit par Yirat Shamayim. J'ai rendu, en quelque sorte, Aaron sensible à la texture des tissus qui sont utilisés pour ses vêtements, savoir est-ce que le vêtement il va m'aider à faire mon travail. Si vous voulez, même de façon complètement profane, c'est sûr que imaginez un athlète, il doit faire la course à pied, par exemple, c'est sûr qu'il faut que ces chaussures de course-là, elles soient parfaitement adaptées à son pied, parce que sinon, il n'arrivera pas à donner tout ce qu'il peut donner. Le matériel doit être adéquat.
Comme des autres, il faut à la limite de l'athlète, le sol, la chaussure, comme tous ces éléments arrivent à un niveau d'eau sur lesquels ils peuvent communiquer.
Alors bien sûr,
Cependant,
communiquer, je sais pas, mais c'est évident qu'on ne met pas la même chaussure pour courir sur des galets ou sur du caoutchouc ou sur du plastique, ou, etc.
pas la seule chose, celui qui a
Celui qui a fait la chaussure, il doit connaître, il doit savoir sur quoi, quel matériau il faut mettre dans la chaussure pour qu'elle adhère bien, pas trop, pas combien il faut, quoi. Pardon? Là, c'est complètement technique, mais parce que le résultat qu'on veut obtenir, c'est purement matériel. Bon, écoutez, n'ayez pas peur.
Une porte heureuse de barrière.
Rabolbé fait remarquer sur le kavod dont il fait sur les vêtements d'Aaron. Il dit, Kavod, hu itgalut betochateva. La gloire, le Kavod, c'est un dévoilement qui a lieu dans le cadre de la nature. Comme on dit, Mloch al-Aretz kvodo. La gloire divine remplit la terre. C'est-à-dire, même de façon naturelle, on s'en aperçoit. Tiferet, Yidgalut, chez le mal Aminateva. La splendeur, la Tiferet, c'est quelque chose, c'est un dévoilement qui est au-dessus de la nature. Que ce soit un miracle, que ce soit la prophétie, que ce soit dans la Torah. Tiferet, c'est Matan Torah, dit la Gemara. En fait, ces deux dévoilements-là, ils existaient dans le Beth Amikdash. Le Ramban en parle parce que je vous avais déjà dit que pour le Ramban, le Mishkan, c'était un Mamadar Sinaï, un Sinaï portatif, si vous voulez. Et donc le Kavod, il y avait le Kavod aussi là-dedans. Parce que la nature là-bas, la nature était sans faute. Et le Kolechad, Mikle Amigdash, et chacun des ustensiles utilisés dans le Betamigdash, Aitavos Goula le Chapara. Chacun des ustensiles était un ustensile qui avait des propriétés utiles pour apporter la kapara, pour qu'on puisse, quand on apporte des korbanot, obtenir la kapara. Donc toute la paracha, elle va être consacrée à ces fabrications, en réalité. La fabrication de ces vêtements d'Aaron. Et puis on va aussi dire un peu quel usage on va faire de ces différents instruments ou du mobilier ou des choses comme ça. Donc à la fin, on nous dit un peu que c'est un peu comment certains corbanotes, comment on allait les faire, etc. Comment ça s'est passé, effectivement. Toujours dans le cadre de l'inauguration du Mishkan. Effectivement, on va arriver jusqu'à la fin de cette présentation, et après, on va passer dans la parasha de Kitissa, on va passer au Vaudor. Alors, vous vous souvenez, il y a une marloquette Rashi et Ramban pour savoir dans quel ordre il faut. Est-ce qu'on pense que les choses se déroulent comme elles sont écrites, dans l'ordre où elles sont écrites, ou comme Rashi a dit différemment. Et quand on a vu que Hachem disait pardon. Quand Moshe Rabbeinu, si on explique l'absence dans cette paracha du nom de Moshe, quand est-ce que elle est due à quoi? Au fait que Moshe a dit, efface-moi ton livre, si tu ne pardonnes pas. Donc obligatoirement, cette paracha-là, d'après ça, elle doit se situer quand? Après la faute du veau d'or. Bon, donc ça va dans le sens de Rashi. Puisque pour Ramban, ces parshiot-là, elles ont été dites quand Moshe est monté sur la montagne avant que les Bnei Israël aient fait le veau d'or. Donc c'est difficile de dire que Moshe, le nom de Moshe n'est pas dans cette paracha, alors que s'il n'est pas dans cette paracha, d'après cette explication, c'est parce qu'il a parlé de cette manière-là. Après qu'Hachem ait dit que, suite au veau d'or, il allait détruire le monde et commencer un nouveau monde, hein, détruire le peuple, pardon, et commencer un nouveau peuple avec Moshe. Donc, bien sûr, ça va plutôt dans le sens de Rachid. Alors, Même si, l'Amegdala, hein, donc c'est la même chose, c'est l'Amegdala. Il avait essayé d'expliquer à sa manière, en fait, le Hatat et Tsavé, etc. Et il a expliqué que il fallait bien savoir sur le fait que Moshe Rabbeinu ne voulait pas marcher sur les plates-bandes d'Aaron, etc. Il dit que Moshe et Aaron sont considérés comme des chaverim, en fait. C'est-à-dire ils sont mis sur le même plan. Sous-entendu, mais pas ils sont pas mis sur un plan de Rav et Talmid. C'est pas que Moshe est le maître et Aaron le Talmid. On voit, c'est marqué dans les Avot de Rabbi Nathan, Minayin shekvod chavero yechaviv alav kerabo. D'où est-ce qu'on sait que quand on étudie avec quelqu'un, son chaver, alors le kavod du chaver, il doit être le même que celui qu'on donnerait à son maître. Pourquoi? Parce que d'où est-ce qu'on voit ça? Parce qu'il est marqué Vayomer Aaron el Moshe bi Adoni. Aaron a dit à Moshe, il l'a traité mon Seigneur, bi Adoni. Valo achiv hakatan mimenu haya, et pourtant Moshe était son petit frère. Non, mais Aaron a considéré son frère comme son rav, comme son maître. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que Afalgav chez Aaron Aya Nitzrach l'Agmara de Moshe Mipi Hashem, le Gamra. C'est-à-dire qu'en vérité, Aaron, la Torah qu'il avait, c'est la Torah qu'il a reçue de son frère, de Moshe. Mais néanmoins, une fois qu'il avait reçu la Torah, après qu'il ait entendu, il n'avait plus besoin de Moshe pour réfléchir et pour comprendre effectivement les choses. Il comprenait de lui-même. Donc il était aussi grand que Moshe du point de vue de la compréhension. Mais simplement, sa grandeur, elle n'était pas, c'était pas la même grandeur. La force de Moshe, il était plus grand parce que il était capable d'être Mechadesh, de dire des nouveautés, etc. Même des choses qu'il n'avait pas obligatoirement entendues directement. Mais puis Hachem, il était capable, dit le Amegdavar, de comprendre de tout ce qu'il avait entendu par ailleurs que dans ce cas-là, ça devait être comme ça. Ça, il savait faire. On voit ça dans l'Agmara, dans le Dari. On dit là-bas que l'Onitna Torah est là le Moshe Olzao. En vérité, la Torah, elle n'a été donnée qu'à Moshe et à donc ses descendants. Mais l'Agmara, elle dit, qu'est-ce que c'est qui lui a été donné? C'est Pilpula Baalma, c'est-à-dire la capacité de produire de la Torah, si vous voulez. Aaron, il était plus élevé dans sa capacité de Svara, de réfléchir, le damot milta le milta, c'est-à-dire de comparer des choses. Et donc, et dans ces comparaisons, il touchait, trouvait juste, il tombait juste en général. Donc, ça veut dire que pour savoir comment se conduire, Aaron était meilleur que Moshe, presque.
Non.
Non, non, il y a une nuance qui est de produire de la Torah, et il y en a une autre qui est, si on veut, de pouvoir trancher, de pouvoir comparer. On pose une question. Dans le Shulchan Aruch, la question exactement, elle n'est pas écrite telle quelle. Il faut trouver dans le Shulchan Aruch une situation qui est décrite, qui est tranchée, et dont on pense qu'elle s'applique bien à la situation concrète qu'on nous a donnée, qui, elle, ne figure pas mot à mot dans le Shulchan Aruch. Alors, ce travail-là, de comparaison, juste savoir quelle est la bonne comparaison, ça, c'est le savoir-faire d'Aaron. C'est elle qui décide, en quelque sorte, quand on a un problème pour savoir comment se conduire. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de problème parce qu'à la limite, on pourrait dire, Moshe, s'il avait un problème, il demandait. Il demandait à Hachem, ou alors il était à un niveau tel qu'avec tout ce qu'il savait, il savait ce qu'il fallait faire. Il n'avait pas besoin de travailler, de comparer, etc. Ça venait. Oui, c'est le chidouche. Donc c'est en ça qu'ils étaient des frères. Ils étaient tous les deux à la même hauteur, mais évidemment, pas dans le même domaine, en fait. Regardez, on va s'arrêter là.